7h50. Bon lundi matin, bon début de semaine de relâche. Merci d'être là. Merci de commencer la semaine et la journée avec le trio de Rage Against le matin. On est avec vous jusqu'à 10h. Max, on souhaite cette semaine une semaine bien relaxe sur les routes. C'est-tu le cas ce matin?
À date, oui.
OK, parfait. Parfait, rien à signaler?
Nope.
Pas chaud, c'est un beau matin, mais c'est pas chaud. C'est ce que je répète depuis le début de l'émission. On est toujours à moins 25 degrés sous le soleil. Ça va se réchauffer, maximum aujourd'hui de moins 7 degrés, sinon de la neige pour mardi et mercredi, mais du temps plus doux, 0 et 2 les maximums. Et de la pluie pour ce qui est de jeudi avec un maximum de 7 degrés. Je ne sais pas comment c'était chez vous en fin de semaine, mais chez nous, il y a un sujet qui a fait énormément jaser. Une rencontre qui a fait énormément jaser. Et autant avec mes deux ados à maison que le beau-père et sa blonde qui étaient de passage chez nous aussi. Et c'est la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Zelensky. Toi, Jeff, c'est la même chose de ton côté que tes boys?
C'est l'enfer comment ça l'a jasé. Ça jasait même à l'aréna Saint-Raymond de ça, en plein match midgetta.
T'imagines, t'es un samedi après-midi à Saint-Raymond,
ouais,
à l'aréna pour un match de midgetta, puis on parle de la rencontre entre Zelensky et Donald Trump. On va en jaser avec Luc Laliberté. J'avais vraiment hâte à cette jasette-là, qui est chroniqueur au Journal de Québec. Il enseigne aussi l'histoire des États-Unis et des Amériques au Cégep Garneau. Il est au bout du fil. Luc, bon matin.
Oui, bon matin.
Hey, merci d'être là avec nous ce matin, Luc.
C'est toujours un plaisir quand on peut contribuer ou échanger autour de ce qui se passe aux États-Unis.
Ah, ça nous fait bien plaisir. J'avais vraiment hâte à cette jasette-là et j'aimerais te lancer avec cette question. À savoir, toi, Luc, ça fait longtemps que tu suis ça, la politique internationale, ce qui se passe aux États-Unis. À quel point tu as été surpris de voir ou même vivre cet échange-là et cette rencontre-là qu'on a vu et connu vendredi dernier entre Trump et Zelensky?
Écoute, je suis pas étonné de l'orientation ou de la direction qu'a pris Donald Trump ou qu'a pris son administration. Ce sont des choses sur lesquelles j'avais écrit depuis un moment déjà. Ce qui m'a étonné, c'est que jamais dans l'histoire américaine, on a vu une telle humiliation sur la place publique. Habituellement, il y a des discussions qui sont très fermes, il y a des discussions tendues. Parfois, on se parle dans le blanc des yeux, hein, puis on négocie ferme. Mais ça se fait pas devant les projecteurs. Ce n'est pas devant les journalistes. Habituellement, on règle ça derrière des portes closes. Et c'est ça qui m'a étonné. Pas tant que les Américains, sous Donald Trump, revoient leur stratégie ou qu'ils disent, écoutez, ça fait des milliards et des milliards qu'on a investis. Comme pays, pas comme bloc, mais comme pays, nous sommes le plus grand contributeur d'aide à l'Ukraine. Ça me semblait être tout à fait prévisible. Cette espèce de lien qui a tordu entre Donald Trump et la Russie, c'était pas une surprise non plus. Mais sincèrement, assis devant mon téléviseur à regarder ça en direct, de les voir s'acharner sur quelqu'un qui est un allié, quelqu'un dont on a violé le territoire à deux reprises, pour la Crimée, pour le Donbass. Quelqu'un à qui, en plus, on va extorquer des milliards de dollars en exploitation de ressources naturelles, qu'on humilie quelqu'un publiquement. Ça, j'avoue, écoute, il n'y a pas d'équivalent dans l'histoire américaine pour ça. Pas, en tout cas, devant des caméras, devant les projecteurs. Et on savait très bien que ça allait être reproduit à l'échelle planétaire. Quand on parle des conflits sur la planète au moment où on se parle, l'Ukraine est sans aucun doute un des trois ou quatre gros conflits dont on discute. Il y a le sort de l'Europe, mine de rien, en jeu, puis l'équilibre des pouvoirs dans le Pacifique. Faire ça devant les téléviseurs, ça n'a aucun sens, puis c'est très difficile d'interpréter ça autrement que les États-Unis ont décidé de devenir eux aussi, en politique étrangère, un pays qui se rapproche de l'autoritarisme et qui est à faire le jeu de pays auxquels auparavant on s'opposait.
Fait que Luc, c'était voulu, ou du moins c'était planifié par Trump et son entourage.
Ah, écoute, c'est très, très difficile. Je crois pas ceux qui... Parce qu'à la Maison-Blanche, on pédale fort, d'ailleurs, ces jours-ci, là, pour dire c'est de la faute de Zelensky, finalement. Ce qu'on a laissé entendre dans certains médias, puis ce qu'on a laissé entendre de la part de la Maison-Blanche, c'est Zelensky aurait pas dû s'opposer à Donald Trump devant les caméras de télévision. Mais on dit aussi, ben, il est arrivé mal préparé parce que l'entente qu'on devait signer, il y a des choses qui n'avaient pas été conclues encore. Il y a des détails sur lesquels on ne s'était pas entendu. J'ai même lu une interprétation en fin de semaine qui disait, s'il était arrivé avec un interprète, ça ne se serait pas passé comme ça. Il y a peut-être des choses ou des subtilités de la langue dans lesquelles Zelensky s'est empêtré. Moi, je ne crois pas à ça. C'est trop clair la direction que veut prendre l'administration américaine. Puis il suffit de voir, d'ailleurs, les rôles qu'on s'était confiés. Je sais pas si les gens ont réécouté, les ceux qui nous écoutent, si on a réécouté un peu la séquence. Mais il s'agit de voir comment J.D. Vance, qui est le vice-président, lance tout ça. Ça semblait pas être aussi acrimonieux, ça semblait pas se diriger vers une confrontation, jusqu'à ce que J.D. Vance, alors que Zelensky est très poli, il n'a pas été aussi, c'était pas aussi convivial que le président français Macron la semaine dernière, par exemple. Mm-hmm. Mais on a bien senti que c'est J.D. Vance qui haussait le ton, qui a commencé à le piquer, à exiger de lui qu'il s'excuse. Et ce n'est qu'après ça que le président Trump est intervenu. Mais carrément, J.D. Vance, son rôle était d'être le chien d'attaque là-dedans. Et c'est lui qui fait que ça déraille. Et nous, on a retenu ensuite, bien sûr, des extraits de la déclaration de Donald Trump. Mais c'est J.D. Vance qui passe à l'attaque là-dedans. Écoute, l'image qui m'est venue en tête quand j'ai regardé ça, tu le mentionnais tout à l'heure, ça fait des années que je couvre ça et que je regarde ça. J'avais l'impression d'être dans un tribunal quand une femme qui a été agressée sexuellement doit répondre aux questions de l'avocat de l'agresseur présumé, tant que le procès n'est pas terminé. Et là, j'avais l'impression, quand Donald Trump et J.D. Vance, j'avais les deux avocats de Vladimir Poutine qui sont en train de jouer sur la réputation du gars dont le pays a été agressé à deux reprises.
Ouais. Justement, Luc, je voulais revenir sur J.D. Vance. Est-ce que le président Zelensky a bien fait de se montrer tranchant face à lui, notamment en disant « Est-ce que vous pensez que vous allez avoir raison juste en parlant plus fort? » Ou Zelensky aurait dû quand même demeurer plus calme et se garder une réserve?
Je pense que Zelensky a compris qu'avec les Américains, il n'y avait plus grand-chose à faire. C'est un des angles que ceux qui analysent la discussion ont abordé. D'abord, il n'a pas fait ça. Il n'a jamais été ni arrogant, ni très provocateur. Mais on en est là. Ça veut dire que Zelensky aurait dû littéralement, parce que son pays est en guerre, parce qu'il y a des pertes de vie humaine à n'en plus finir, ce que les critiques de Zelensky disent, c'est finalement il aurait dû s'agenouiller. Il aurait dû s'agenouiller et demander pardon. Et il sait très bien que les Américains de Donald Trump, cette administration-là, n'entend et ne respecte qu'un seul langage, celui de la force. Et ce sont les deux Américains qui mentaient sur les sommes, d'ailleurs, offertes par les États-Unis, qui mentaient sur la situation qui prévaut en Ukraine. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer un meneur de la trempe de Zelensky, parce que Zelensky n'est pas un saint, puis l'Ukraine, c'était pas le paradis sur Terre non plus avant que la Russie entre sur ce territoire-là. Mais il y a une limite jusqu'où on peut plier les chines, jusqu'où on peut se mettre à genoux. Et je répète, on le fait publiquement. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer un autre comportement pour Zelensky s'il veut pas donner l'impression à la face du monde que finalement, Donald Trump, quand il lève le ton, quand il menace, peut avoir raison sur tout.
Nous autres, on regarde ça, puis au Canada, au Québec du moins, puis on se dit, voyons, ça a pas de simonac de bon sens. Du côté des États-Unis, quand ils ont regardé ça vendredi, là, évidemment, il y a une majorité qui a voté pour Donald Trump. C'est pas une majorité qui est en faveur de ce qui s'est passé vendredi. Là.
Non, puis c'est un peu... on n'a pas de sondage très précis. On a des choses... CNN, par exemple, avait... un faux sondage, on demande aux gens spontanément, mais c'est ceux qui écoutent CNN de dire qui serait responsable de ce dérapage-là ou de cet incident-là. Souvent, aux États-Unis, là où Donald Trump peut avoir une prise et où la discussion était parfaitement légitime en passant. Hein, moi, j'en ai contre le traitement, mais ce que Donald Trump dit, puis ce à quoi beaucoup d'Américains sont sensibles, c'est si on est rendu qu'on vous a promis au-delà de 100 milliards de dollars, tout ça n'a pas été livré, là, mais au total, c'est plus de 100 milliards de dollars, ce que Donald Trump et les Américains sont en droit de dire, c'est est-ce qu'il y a une issue à ça, ce conflit-là, pendant combien de temps, puis à hauteur de combien d'argent, finalement, on va continuer à vous soutenir? Ça, ce sont des questions légitimes. Les Européens se sont posés ces questions-là. Joe Biden se posait ces questions-là. Ah, on se montrait comme un allié indéfectible en disant le message, on l'envoie à la Russie et à la Chine. on va se tenir hein, pour défendre nos prérogatives, parce qu'en passant, c'est un investissement en Ukraine que font les États-Unis. Ce sont des messages qu'on passe, ce sont des luttes à l'échelle internationale dans lesquelles on investissait en tentant d'appuyer l'Ukraine, mais qu'on demande à Zelensky ou qu'on fasse sentir à Zelensky que tout ça coûte très cher et qu'il doit y avoir une fin et des négociations de paix, c'était parfaitement légitime. Je répète, là où j'en ai, c'est sur la méthode.
Ouais.
Et là-dessus, c'est épouvantable, parce que non seulement on humilie, ou en tout cas, on a tenté d'humilier Zelensky, de l'autre, on se rapproche de la Russie. Et les Américains, là où ils vont suivre Trump, c'est ça coûte très, très, très cher, tout ça, puis c'est un conflit qui ne nous impliquait pas directement. Alors ça, je peux comprendre qu'on appuie Donald Trump quand il fasse ça. Maintenant, je pense que ce que Donald Trump a montré, c'est plus que ça. On discutait de bien plus que d'argent. On exigeait la soumission d'un allié.
On jase de la rencontre Trump-Zelensky avec Luc Laliberté, chroniqueur au Journal de Québec. Luc, j'ai été surpris de voir Zelensky répondre et corriger, si on veut, J.D. Vance et Donald Trump. Au cours des dernières semaines, on a vu d'autres leaders politique à l'international, débarquer à Washington, rencontrer Donald Trump et juste hocher de la tête malgré le fait que Donald Trump déclare des faussetés. Là, maintenant que c'est fait, ça a créé cette situation-là, est-ce que ça vient nuire ou aider l'Ukraine et Zelensky à l'international?
Écoute, ça, on va le savoir sous peu. Ça vient changer la donne, en tout cas, assurément.
Okay.
C'est pas impossible, considérant ce que Zelensky a dit et fait depuis cette rencontre-là. Il est, entre autres, allé à Fox News, où il a eu le droit à du temps d'antenne, à des questions qui me semblaient tout à fait légitimes. Il a été bien traité par Fox News, mais il n'a pas fermé la porte. Par contre, là où ça change la donne, c'est qu'on connaît Donald Trump, et tu viens de le souligner. M. Macron, par exemple, j'y reviens, mais c'est le plus récent avant Zelensky. Il a pris la peine de l'encenser, de le flatter, de sourire, avant finalement de faire ce que Zelensky a fait, c'était de corriger les mensonges de Donald Trump. Et il semble que ça ait bien passé dans ce cas-là. Et donc, Zelensky se retrouve donc en froid avec les Américains, et il ne peut pas se passer, au moment où on se parle, carrément des Américains. C'est-à-dire que même si l'Europe se levait, donc, et que l'Europe faisait bloc et décidait d'augmenter une aide qui a déjà été très généreuse, quand on parle de l'Europe comme bloc, on contribue plus que les États-Unis au total. Donc, par contre, il y a des choses que les Américains apportaient à Zelensky que les Européens ne peuvent pas lui donner dans l'immédiat. Et si jamais Donald Trump disait « OK, en très mauvais français, on tire la plug », Zelensky va être privé d'un apport aérien. Donc, c'est surtout au niveau de la flotte, hein, des avions, pardon. C'est surtout là où il va exposer des faiblesses. Et ça rend donc plus vulnérables les villes qu'on retrouve en Ukraine présentement, les grands centres, entre autres. Donc, c'est difficile pour Zelensky. En même temps, si dans le bureau ovale, et peut-être pour certains Américains, il est considéré maintenant comme quelqu'un qui a été impoli, comme quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, je regardais la couverture internationale de l'événement et Zelensky en sort gagnant. D'un côté, on a les États-Unis qui disent « Zelensky doit partir hein, ». Je lisais ça encore ce matin dans ma revue des médias du matin. Zelensky doit partir, ou grosso modo, s'agenouiller. De l'autre côté, on a bien vu qu'il y a une levée de boucliers, puis surtout une levée de sentiments très, très positifs où c'est Zelensky qui est présenté comme un héros. Et je vois pas, à moins qu'en Ukraine, on ait décidé de complètement abandonner, je ne vois pas qui d'autre que Zelensky a un tel aura, donc à l'échelle internationale. Il est présenté comme un héros. On lui avait offert de quitter l'Ukraine au début du conflit, puis il a dit « Non, je veux pas m'en aller. Donnez-moi des armes. Je reste ici, sur le terrain. » Donc, Zelensky peut aller chercher beaucoup plus d'appui que n'importe qui d'autre actuellement en Ukraine. Et je pense pas qu'on ait personne de prêt à jouer le rôle que Zelensky joue depuis 3 ans. C'est lui l'Ukraine à l'échelle internationale. Hein? C'est lui l'image. Puis c'est lui le sentiment essentiellement positif qu'on a en Occident quand on regarde le conflit qui a été provoqué par Vladimir Poutine. Donc, il y a énormément qui est en jeu actuellement. On l'a vu aller à Londres, par exemple, Zelensky, obtenir 5 milliards supplémentaires, mais surtout, ce qu'il a obtenu, c'est beaucoup de propos qui disaient « faut que l'Europe se lève ». Est-ce que l'Europe peut être unie dans cet effort-là? Parce que l'Europe, hein, on le sait, c'est plusieurs pays, c'est des pays qui n'ont pas toujours des intérêts qui convergent. Mais je pense qu'on sait très bien que si les Américains se retirent, M. Macron l'avait dit d'ailleurs, on a peut-être surfé un peu sur l'aide américaine, il va peut-être falloir reprendre du poil de la bête puis faire plus la job nous-mêmes. Je le formule comme ça, mais en langage diplomatique, c'est ce que ça voulait dire. Donc, moi, je pense que Zelensky, il joue gros. Je pense que l'Europe va l'aider, que l'Europe va se serrer les coudes. Faudra voir jusqu'à quel point maintenant Donald Trump, qui voit, lui, à court terme, souvent, une simple transaction. Est-ce que Donald Trump, en se tassant du décor ou en envoyant paître finalement l'Ukraine, est-ce qu'il est presque privé de ce que ça rapportait au plan stratégique, mais peut-être aussi au plan carrément financier, cet investissement-là, Michel?
Luc, rapidement et en terminant, qu'est-ce que ça fait pour le Canada au niveau géopolitique? Parce que on partage une grande frontière avec les Américains. Ouais. On s'est positionné du côté de l'Ukraine. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines dans notre relation avec les États-Unis?
Écoute, ça m'attriste de le dire comme ça parce que j'enseigne l'histoire américaine. Je suis profondément québécois, là, mais j'enseigne l'histoire américaine et j'aime les États-Unis. C'est le pays où je séjourne le plus dans une année. Mais les Américains sont maintenant devenus des rivaux. Et je pense que Justin Trudeau, envers lequel je peux être très, très critique à l'occasion, je pense qu'il a posé le bon geste. Il s'est rendu tout de suite en Europe. Il s'est invité à une rencontre sur la défense, sur la protection. Et il s'est invité aussi ce matin dans une rencontre avec le roi Charles, qui aurait dit ça il y a quelques années. Ouais. Mais je pense que Justin Trudeau doit, autant au plan économique qu'au plan de la sécurité et des alliances maintenant, mettre la pédale au plancher. On a du retard dans nos relations avec l'Europe parce que les États-Unis avaient toujours été un complice très fiable. Maintenant, quand on regarde en termes au plan militaire, au plan du renseignement, puis on va le savoir demain au plan économique, on a maintenant, disons-le comme ça, on a une menace à la frontière sud maintenant, plutôt qu'un pays avec lequel, finalement, on a l'impression de prolonger la maison chez nous quand on sera aux États-Unis. J'étais rarement dépaysé, j'avais pas l'impression d'être ailleurs. Écoute, j'y vais la semaine prochaine aux États-Unis. Et c'est la première fois que je vais avoir un drôle de feeling en traversant la frontière. Je pense que ça en dit déjà assez long.
Luc Laliberté, chroniqueur au Journal de Québec. Luc, ça a été une première jasette à Rage Against le matin. Certainement pas, en tout cas, de notre côté, une dernière. En tout cas, on le souhaite. Merci énormément pour la discussion ce matin.
Ben écoute, désolé de ne pas avoir de meilleures nouvelles pour vos auditeurs et pour l'équipe, mais ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous.
Ah, ça sera pas des bonnes nouvelles pour une prochaine fois, Luc. Salut, Luc.
Salut, Luc.
Aye, bonne journée.
Salut, Luc Laliberté, chroniqueur au Journal de Québec, qui enseigne, comme il disait si bien, là, histoire des États-Unis et des Amériques au Cégep Garneau.
Une sommité, ça fait près de 30 ans qu'il enseigne, là, justement, l'histoire des États-Unis et des Amériques au Cégep Garneau, donc connaît son sujet sur le bout de ses doigts. Rien de rassurant pour nous, le Canada. Va vraiment falloir, ce que je comprends des commentaires de Luc Laliberté, que l'Europe se lève au détriment des États-Unis. Ça prend un front important européen pour venir contrer présentement la menace autoritaire des États-Unis, qui l'aurait cru la plus grosse démocratie au monde présentement, est en train de chavirer.
On va poursuivre la discussion dans la prochaine heure avec Éric Ouellet, mais du côté plus militaire de la chose, là, cette rencontre-là entre Zelensky et Trump, qu'est-ce que ça va faire sur le terrain du côté militaire du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Donc ça s'en vient. Et on va... est-ce qu'on aura finalement là, des tarifs? Est-ce que Donald Trump va imposer ses tarifs pour l'exportation-importation des produits canadiens aux États-Unis? C'est ce qu'on va savoir demain. Est-ce qu'on va repousser tout ça? On va avoir cette jasette-là avec le PDG de la Chambre de commerce et industrie de Québec, Frédéric Boisvert. Red.